auditeurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou qui parle de l'actualité ou des faits de société. Vous écoutez ce programme sur les ondes de nos 52 radios partenaires qui diffusent nos contenus dans les 8 régions du pays. Le changement climatique est un phénomène mondial qui n'épargne aucun pays et le Niger est particulièrement touché. Ainsi, les effets du changement climatique se traduisent dans ce pays non seulement par l'augmentation des températures extrêmes 1,5 fois plus vite que dans le reste du monde et d'ici 2100, la température augmentera de 3 degrés Celsius à 6 degrés Celsius, aggravant les problèmes de sécurité alimentaire, de raréfaction de l'eau, etc. selon la Banque mondiale dans un article publié le 21 octobre 2021. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les femmes productrices s'adaptent face au changement climatique au Niger. Quel est le climat du Niger et comment se manifeste le changement climatique au Niger? Quel impact sur l'environnement et sur l'agriculture au Niger? Comment s'adapter au changement climatique, comment atténuer les effets du changement climatique sur l'agriculture et quelles alternatives pour les femmes agricultrices pour faire face à la conséquence de ce changement climatique. Ce sont à ces questions et à bien d'autres que nos invités vont tenter d'apporter des réponses. Il s'agit de M. Niendou Dabore-Yakouba, chef de division à la Direction générale de l'environnement et du développement durable, et de Mme Hima Fatimata, présidente du Collège des femmes de la plateforme paysanne. Bonsoir. À la présentation, je suis Rafika Taher. Avant d'entamer le vif du sujet, dites-nous, Monsieur Yakouba, quel est le climat actuel au Niger? Et hormis la température qui augmente, comment le changement climatique se manifeste?
Merci de l'opportunité que vous nous offrez pour parler d'un sujet d'actualité qui est le changement climatique. Les plus sceptiques sont convaincus, ils sont unanimes qu'il y a changement climatique. Ce changement climatique, nous la subissons dans nos activités de tous les jours, bien que nous ne sommes pas responsables de ce changement-là. On dit que l'atmosphère n'a pas de frontières. Nous subissons la pollution des pays industrialisés. Mais à cause de notre vulnérabilité, nous sommes ceux qui en pâtissent le plus. Le changement climatique au Niger, il est perceptible sur plusieurs aspects, selon les activités socio-professionnelles. Donc, cette perception, elle se manifeste à travers les sécheresses que nous vivons tous les 2 ans, les baisses de rendement enregistrées au niveau des récoltes, les inondations, la recrudescence des maladies climato-sensibles, c'est-à-dire le paludisme, le choléra, les feux de brousse, qui est un problème récurrent, un problème d'ailleurs auquel on cherche donc des solutions à travers le forum national qui est en cours hier et aujourd'hui, qui réunit donc les experts à la question autour du ministère de l'Environnement pour chercher donc à juguler ce problème.
Et quelles sont les zones les plus frappées par le changement climatique au Niger?
Qu'est-ce qui cause ce changement climatique? C'est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui permet la vie sur Terre, qui permet de maintenir une température moyenne de 15 degrés. Si la vie n'est pas possible sur Mars, c'est que sur Mars, il n'y a pas de gaz à effet de serre. Donc, c'est un phénomène naturel qui est perturbé par les activités humaines. Donc, j'ai dit, toutes les régions sont affectées par ce changement climatique. Mmh. Donc, le degré donc, de manifestation des conséquences du changement climatique est fonction de la vulnérabilité donc, des régions.
D'accord.
C'est à des degrés variables.
Madame Fatimata, est-ce que le secteur de l'agriculture, surtout concernant les femmes productrices, est aussi touché par ce changement climatique?
Donc, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de ce sujet qui est réel au Niger. Et vous savez que les femmes subissent plus les effets du changement climatique que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont dépendantes de l'environnement. Et les femmes subissent 14 fois plus les effets du changement climatique que les hommes. Et je vous donne des exemples. Quand il y a les changements climatiques, les femmes doivent se déplacer plus loin pour aller chercher les combustibles et l'eau aussi. Et donc, ce qui veut dire que leur journée est encore plus allongée que s'il n'y a pas d'effet de changement climatique. Si les femmes vont se déplacer pour aller chercher des effets pour leur combustion, les jeunes filles aussi vont se déplacer pour faire ce même travail. Ce qui veut dire que la scolarité de la jeune fille est encore menacée par ce geste-là, aller chercher le bois très loin, aller chercher l'eau très loin, aller chercher les produits de cueillette très loin à cause de l'effet du changement climatique. Et puis, les femmes paysannes, leur vie sont dépendantes de l'environnement. Toute femme, une fois que l'environnement est dégradé, leur qualité de vie aussi est détériorée. Donc vous voyez que cette grande distance qu'elles font pour aller faire tout ce travail-là, ça détériore leur santé et ça impacte aussi sur le temps qu'elles vont mettre pour faire le ménage, pour faire de la cuisine, pour s'occuper de la famille, pour s'occuper de leur champ et pour s'occuper de leur récolte.
Particulièrement chez les femmes productrices, quel impact donc le changement climatique peut avoir?
Le premier impact, c'est la baisse du rendement. Donc, et aussi le fait qu'elles n'ont pas accès suffisamment à l'eau. À part la saison des pluies, toutes les femmes font le maraîchage, elles font le gombo, elles font l'oignon, elles font le sésame, elles font toute cette petite récolte-là. Donc une fois qu'elles ont l'eau à portée de main, c'est sûr qu'elles vont travailler et puis le rendement serait plus acceptable et puis plus important. Mais si elles n'ont pas facilement accès à l'eau, donc le rendement serait diminué et leur pouvoir d'achat, les finances aussi seront diminuées.
D'accord. Comme dans la plupart des pays africains, l'agriculture joue un rôle important dans la vie socio-économique de notre pays. Le secteur du développement rural occupe 81% de la population active et contribue à hauteur de 42,8% du PIB avec 49,5% de la population agricole nationale. Quel rôle jouent donc les femmes dans les différentes activités agricoles?
Vous savez déjà, dans tout le monde entier, la production mondiale, les femmes contribuent pour entre 60 à 80%. Ce qui veut dire que la contribution des femmes n'est pas négligeable. Mais dans tout ça, là, quand les décideurs vont au niveau des COP pour décider des financements dans le cadre du changement climatique, les femmes, on s'adresse comme en tant que personnes vulnérables. Alors qu'on devrait prendre la femme en tant qu'une personne incontournable dans le cadre du changement climatique. Donc vous voyez, ce qui veut dire qu'on ne considère pas l'apport de la femme en aliments. Ce n'est pas une manière de l'encourager.
Monsieur Yakuba, les conséquences surtout de la désertification jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique, notamment dans le secteur agricole. Donc pouvez-vous nous dire quelles sont justement ces conséquences-là?
Et comme je l'ai dit tantôt, la première conséquence, donc, c'est la baisse des rendements. Donc la baisse des rendements, c'est l'effet. Mais avant, donc, qu'est-ce qui amène cette baisse de rendement? C'est le fait de l'irrégularité des pluies. À cause donc des changements climatiques, les pluies sont mal reparties sur le territoire. En plus, ce qui entraîne donc des poches de sécheresse. Donc on assiste également donc à des modifications du calendrier culturel. Donc cette modification fait que, c'est-à-dire les saisons se chevauchent. Donc un signe annonciateur de la saison des pluies au Niger, c'est l'arrivée de la cigogne. La cigogne, elle vient en guise de prospection. Elle vient au niveau du septième mois du calendrier culturel. Elle vient en guise de prospection, elle retourne. Un mois après, elle revient avec les pluies. Elle nidifie le calendrier, c'est-à-dire la saison, elle se déroule. Mais l'envol de ces cigognons, de ces petits, coïncide avec la récolte du mil. Mais aujourd'hui, il arrive qu'il y ait envol des cigognons, envol des petits de la cigogne, avant même qu'on ait semé. Ce qui montre qu'il y a vraiment un recul. Le calendrier culturel est vraiment perturbé. Il y a un recul d'au moins trois mois. Donc, la saison et les changements climatiques a amené un bouleversement des saisons. Donc, je disais la désertification, la conséquence majeure, c'est la baisse des rendements. Donc, les facteurs qui concourent donc à cette baisse de rendement, ils sont multiples. J'ai parlé comment on appelle des stress hydriques que vivent les cultures, les pluies qui n'arrivent pas à couvrir toute la saison, qui fait que les cultures n'arrivent pas à maturité. Donc, cette désertification, elle est aussi amplifiée par nos activités, par nos mauvaises pratiques culturelles. On demande toujours, aujourd'hui, l'État fait des efforts pour la régénération naturelle assistée, qui consiste à contourner les pousses des jeunes arbres dans les champs, les protéger pour qu'elles puissent grandir. Les arbres, ils enrichissent le sol. à travers la fixation symbiotique. Il consolide aussi la texture du sol, permettant au sol de résister contre l'érosion hydrique comme à l'érosion éolienne. Donc, les facteurs sont multiples qui concourent donc à la baisse des rendements que vivent les populations liées donc à ce phénomène de désertification.
Madame Hima, décrivez-nous votre activité et quel est votre objectif fondamental de la plateforme?
Comme je vous l'ai dit, je suis la présidente du Collège des femmes. La plateforme paysanne est composée de 13 structures fêtières. Et donc, chaque structure est dans un domaine déterminé. Il y a des structures qui sont dans l'agriculture, d'autres dans l'élevage, d'autres dans le maraîchage, d'autres qui font la pêche. Et il y a les femmes qui font la transformation et le commerce. Donc, toutes les femmes membres de ces 13 structures sont des femmes du Collège des femmes. Donc, le collège est une chambre dans la plateforme paysanne qui permet aux femmes de se concerter et puis d'évoluer parallèlement par rapport au bureau de la plateforme paysanne. Donc, toutes les femmes agricultrices, éleveurs, pêcheurs, maraîchères, tout ce que vous voulez.
Tout ce qui concerne les activités des femmes.
Des femmes sont dans le collège.
D'accord.
Voilà.
Et quel est votre objectif?
Notre objectif, c'est, parce que vous savez, on est avec des femmes agricultrices, des femmes éleveurs. Vous savez que les femmes, très souvent, c'est pour nous permettre de nous regrouper et puis de se concerter. Si on a un problème, on se regroupe ensemble, on discute de ce problème et ensuite on l'apporte au niveau du conseil d'administration de la plateforme paysanne qui prend des décisions pour nous donner des solutions.
D'accord. Justement, vous parlez de problèmes. Est-ce que vous rencontrez des problèmes dus au changement climatique?
Et bien sûr qu'on rencontre les problèmes.
Oui.
Oui, donc les problèmes qu'on rencontre pour les femmes agricultrices aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, elles sont déjà vulnérables. Le changement climatique rend les femmes encore plus pauvres qu'elles ne sont pas pauvres. Parmi les pauvres, les 70% des pauvres sont les femmes. Et s'il y a le changement climatique, si le rendement est diminué, donc le pouvoir d'achat, le pouvoir de vente aussi est diminué. Donc ça appauvrit encore plus la femme. Mais les femmes ont compris et elles ont trouvé des solutions. Elles utilisent par exemple maintenant les semences améliorées. Comme les rendements ont diminué avec les semences améliorées, donc ce sont des semences qui sont compatibles avec l'hivernage. Donc, elles utilisent très souvent maintenant les semences améliorées. Et les femmes font aussi des cordons cailleux pour pouvoir se prévenir du vent. Les femmes, elles font aussi le rail. Elles font aussi les demi-lunes. Ce sont les femmes qui font ces demi-lunes, qui retiennent l'eau. Et ces demi-lunes favorisent aussi l'émergence d'autres plantes pour préserver l'environnement. Donc, vous voyez, les femmes, elles pratiquent toutes ces mesures pour se préserver du changement climatique.
D'accord. Donc, Monsieur Yacoub, apparemment, vous avez des choses à dire concernant ce que Madame Fatimata. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Oui. Et je vais revenir sur la première question, c'est-à-dire dans laquelle vous demandez comment les femmes perçoivent le changement climatique. Elle a parlé, c'est-à-dire, des distances que les femmes parcourent. Donc, en fait, la perception, elle se fait ressentir au niveau de l'augmentation des corvées des femmes. Corvées de collecte de bois et de bois pour la cuisson, corvées de collecte d'eau et corvées pour les décortissages. Elle est perceptible aussi au niveau des dépenses des femmes. Puisque le bois se fait rare, il faut l'acheter maintenant. Il y a des femmes artisanales qui ont besoin de matières premières pour faire des vanneries. Cette matière première, elle est achetée. Alors qu'avant, qu'on souffre des changements climatiques, elle est libre d'accès et se trouve juste au premier auréole. Au premier auréole du village. Voilà. Donc, c'est comme ça que les femmes, sentent le changement climatique.
D'accord. On continue avec vous, Monsieur Yacouba. Comment identifier les mécanismes visant au renforcement des capacités des femmes rurales en particulier et à la facilitation de leur accès aux intrants agricoles, aux technologies agricoles et bien d'autres?
Là, on rentre comment? On rentre dans l'adaptation.
Oui.
Donc, permettez-moi d'abord, avant de rentrer dans le vif, de définir ce que c'est que l'adaptation. Donc, pour lutter contre les changements climatiques, soit on fait de l'adaptation.
Bon, en fait, Oui, bien sûr, c'est une partie de l'adaptation, mais là, ça va venir surtout vers la conclusion. Oui, nous allons terminer avec comment faire pour que les femmes puissent s'adapter face au changement climatique.
Et les femmes, pour s'adapter donc au changement climatique, ont développé toute une gamme de pratiques et de technologies. Donc, Hajia en a cité, elle a cité des pratiques et des technologies dans le domaine de la gestion durable des terres, qui est, c'est-à-dire les cordons pierreux, les demi-lunes, les ailes, les plantations de haies brise-vent. Ces technologies, elles existent, elles sont connues. Ce que nos services techniques font, c'est aider ces femmes rurales à rendre ces technologies plus performantes, à les améliorant, c'est-à-dire pour plus d'efficacité. Les technologies, elles sont connues, elles sont cataloguées. Il suffit tout simplement de les appuyer, de leur amener donc un appui technique pour plus d'efficacité.
Pouvez-vous nous citer quelques technologies?
Ce que j'ai dit, il y a toute une gamme
de technologies que Mme Fass a citées. Voilà. Est-ce que chez vous, il y a d'autres technologies?
Oui, il y a des technologies. Oui. Les technologies visant la résilience, des femmes. Uh-huh. Par exemple, il y a la diversification. La diversification des revenus à travers la vente des produits forestiers non ligneux. Donc, tout ce qui n'a pas un port de les produits forestiers non lignés, les produits de cueillette. L'État fait aussi l'empoisonnement des mares, c'est-à-dire l'empoisonnement des mares pour amener des protéines dans l'alimentation quotidienne, qui est nécessaire donc pour l'équilibre diététique des populations. Ces poissons-là aussi, elles peuvent être vendues et régénérées des revenus qui peuvent être utilisés pour la période de soudure, cette période qui est juste avant la saison de pluie, c'est la période la plus cruciale. Et nos services techniques mènent également des sensibilisations, donc au niveau de l'assainissement, donc assainir donc le cadre de vie pour éviter donc la pullulation donc des parasites et éviter donc les maladies climato-sensibles telles que le paludisme. Mm-hmm. Le paludisme et le choléra.
D'accord. Mm-hmm. Une petite parenthèse, nous rappelons que le ministère de l'Agriculture aussi a été convié à ce débat, mais ils n'ont pas pu envoyer un représentant. Toujours avec vous, Monsieur Yakuba, au Niger et dans le reste du Sahel, la menace du changement climatique est une réalité quotidienne pour les habitants avec des températures qui augmentent 1,5 fois plus vite que dans le reste du monde. Comment est-ce que le Niger agit contre le changement climatique quand on sait qu'il avance à 1,5 fois plus vite que dans le reste du monde?
Et déjà, le continent africain contribue à moins de 4% au gaz à effet de serre responsable du changement climatique. Mmh. Et au Sahel et dans l'Afrique, les pays du Sahel sont les plus vulnérables. Donc conscient de cela, c'est-à-dire nous avons signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette Convention cadre des Nations Unies à deux instruments de mise en œuvre, qui est le protocole de Kyoto que nous avons signé et ratifié en 1997. Puisque le protocole de Kyoto arrivait en terme en 2020, il fallait un nouvel instrument. Ce nouvel instrument, c'est l'accord de Paris. L'accord de Paris sur le climat, elle a été donc adoptée en décembre 2000, en 2015. Donc, pour lutter contre les changements climatiques, l'accord de Paris a amené ce que nous appelons les CDN, les contributions déterminées au niveau national. Ces CDN sont les cadres fédérateurs des interventions climatiques, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en matière de changement climatique doit faire référence à ce document. Les contributions déterminées au niveau national reflètent les engagements des pays signataires de l'accord de Paris à contribuer à la lutte planétaire, donc des changements climatiques. Nous en sommes donc à, récemment, le Niger a soumis sa CDN révisée. Elle a été adoptée donc par décret et soumise au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en décembre dernier. Je l'ai dit, c'est ce document qui fédère toutes les interventions faites en matière d'adaptation, d'atténuation et en matière donc de renforcement de capacités et de financement reçu. Ce document, il est multisectoriel. Les ministères techniques des secteurs AFAT, c'est agriculture, foresterie et autres utilisations des terres, et des secteurs de l'énergie, ce sont les deux secteurs prioritaires pour la mise en œuvre de la CDN. Les organisations de la société civile, les organisations de recherche et de formation ont contribué à l'élaboration de ce document qui est la feuille de route du Niger pour contribuer donc à l'atteinte de l'accord de Paris qui est le maintien de la température globale à 2 degrés Celsius.
D'accord. Madame Fatimata, est-il possible de garantir un droit à une participation pleine et entière des femmes productrices à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique?
Mais bien sûr, parce que les femmes, comme je vous l'ai dit, c'est elles qui subissent le plus les effets néfastes du changement climatique. Donc, elles aussi.
Comment garantir leur droit donc à une participation pleine dans la lutte?
Et garantir leurs droits, c'est reconnaître déjà le travail qu'elles sont en train de faire. Et si on reconnaît leur contribution et dans l'apport.
Vous pensez que le travail que les femmes productrices font n'est pas reconnu?
Pas suffisamment.
Mm-hmm.
Il est reconnu, mais pas à la valeur, à la hauteur du travail qu'elles font. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, très souvent, même les décideurs, quand ils vont négocier, par exemple, les financements pour les changements climatiques, donc très souvent, quand on parle du volet femme, on parle de la femme en tant que personne vulnérable. Donc, vous voyez, donc, ce qui veut dire que même quand on va au niveau des COP là, pour pouvoir négocier les financements pour les effets des changements climatiques, si on aurait dû prendre la femme en tant qu'une personne incontournable pour pouvoir apporter une solution au changement climatique.
Mm-hmm.
Vous voyez, donc là, on sait qu'elle a un droit. Donc, même là, par exemple, il y a des projets. Il y a plusieurs projets qui sont faits dans le cadre du changement climatique. On aurait dû impliquer la femme pleinement dans ces projets pour qu'elle apporte aussi sa pierre à comment atténuer ces changements climatiques-là. Très souvent, la femme n'est pas associée pleinement, comme je vous l'ai dit. Donc, elle a toujours une petite part en tant qu'une personne vulnérable, comme les enfants.
Mm-hmm.
Vous voyez, donc, alors que la femme, elle a une part dans le changement climatique parce qu'elle détruit aussi l'environnement. Donc, si elle est suffisamment impliquée, elle saura qu'il faut améliorer, par exemple, comment améliorer la collecte du bois. Comment il faut le faire, ou bien il faut surtout éviter de prendre ce bois pour prendre un combustible alternatif. Parce qu'elle peut prendre le gaz, elle peut prendre le charbon de bois, bien que le charbon de bois, c'est encore le même phénomène. Donc, mais elle contribue au changement climatique en allant cueillir les cueillettes, les fruits de cueillette, en allant cueillir le bois, en abattant le bois. Donc, si elle est suffisamment impliquée, elle sait qu'elle peut apporter quelque chose, elle peut apporter un changement qui peut être durable pour pouvoir améliorer l'environnement dans lequel elle vit et dans lequel elle devient même dépendante. Une femme agricultrice ne peut pas faire une journée sans aller dans la forêt, quelque part dans son champ. Donc, vous voyez, elle est dépendante même de cet environnement-là.
Alors, qu'est-ce que vous suggérez pour justement éviter cette dépendance? Vous dites bien, elle est dépendante
de l'environnement.
Voilà. Donc, qu'est-ce que vous suggérez?
On suggère à ce qu'elle soit pleinement impliquée dans les projets qui améliorent le changement climatique pour qu'elle apporte elle aussi sa contribution. pour pouvoir apporter son apport. Par exemple, la femme, elle est éducatrice, elle est toujours avec les enfants. Si elle-même, elle est consciente que l'environnement doit être préservé, elle va encore enseigner aux enfants qui sont à côté d'elle comment préserver cet environnement-là. Mm-hmm. Voilà, donc, elle apporte sa contribution.
D'accord. Voilà. Pour les femmes rurales plus exposées aux effets du changement climatique du fait que les hommes quittent les villages pour aller chercher du travail ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qui a mentionné cela parmi vous. C'est vous, madame, ou monsieur? En tout cas, je sais que... Voilà, c'est madame. Voilà, du fait que les hommes quittent le village pour aller travailler. Comment réduire les risques, donc? Sachant qu'il n'y a aucun homme pour les femmes rurales, sachant que tous les hommes ont quitté les villages. Oui. Donc, comment est-ce qu'elles doivent s'y prendre pour réduire les risques des changements climatiques?
Comment elles doivent se prendre? C'est tout juste continuer à faire leur travail champêtre pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille et de leurs enfants.
Mais avec le changement climatique, est-ce qu'elles ne rencontrent pas de difficultés? Mais
bien sûr qu'elles rencontrent des difficultés. Mm-hmm. Mais elles doivent surtout commencer à trouver des moyens d'adaptation. Il faut qu'elles s'adaptent. Si elles s'adaptent au changement climatique, ça réduit leur vulnérabilité et peut-être que ça va un peu impacter aussi sur le rendement. Peut-être D'accord. que ça va améliorer leur rendement. Mm-hmm. Et les femmes, elles sont très conscientes du changement climatique et elles ont plusieurs solutions à apporter pour surtout s'adapter à ce changement climatique-là. C'est mm-hmm. très important. Mm-hmm. Parce que le changement climatique est là, il faut savoir s'adapter pour vivre avec et pour pouvoir tirer plus de profit par mm-hmm. rapport à son activité.
Mm-hmm. Avez-vous... Est-ce que vous...
Voilà, des compléments à ajouter. Oui. Donc, moi, je dirais plutôt, c'est-à-dire comment aider ces femmes, il faut les aider à se relever. Puisque les hommes contribue beaucoup donc à la subsistance de la famille. Donc, en cas d'exode de l'homme, la femme, elle devient plus vulnérable. Il faut les aider, c'est-à-dire à se relever à travers des activités génératrices de revenus, les organiser donc en groupement, leur donner les moyens pour développer des activités qui concourent donc à l'augmentation de leur revenu, des activités comme l'embauche, comme l'embauche bovine aide beaucoup les femmes donc à se relever. Voilà, donc c'est des activités de relèvement qu'il faut qu'on développe le plus souvent pour aider les femmes donc à être résilient donc au changement climatique.
Mm-hmm. Au niveau de votre plateforme, madame Fatimata, comment est-ce que vous accompagnez les femmes productrices, les femmes agricultrices?
On les accompagne surtout par des formations. On fait beaucoup de formations. Donc on fait des formations sur comment améliorer sa production et comment suivre par exemple la chaîne de valeur. Qu'est-ce que c'est que la chaîne de valeur pour une femme productrice? Il faut qu'elle sache, il y a des étapes qu'il faut suivre pour que sa production ait plus de valeur. Et donc aussi l'accès au marché, ensuite comment faire le marketing de sa production mm-hmm. et comment accéder surtout au marché. Donc mm-hmm. tout ça là, on leur fait surtout beaucoup de formations. Et pour les femmes agricultrices, on leur fait même parce qu'on a un champ école, on leur fait des formations pratiques. Par exemple, comment faire le compostage et comment la préparation du compost et ainsi de suite là.
D'accord.
Comment utiliser les engrais? Quel est l'effet néfaste ou bien l'effet positif d'un engrais? Comment utiliser les engrais? Tout ça là, on fait les formations pratiques.
D'accord. Vous êtes combien de la plateforme? Combien de femmes?
Oh là, vraiment, on ne peut pas connaître le nombre.
Mm-hmm. Oui. Un nombre.
On est plus de 400 femmes. 400.
D'accord.
Ça, c'est sûr.
D'accord. La femme nigérienne est présente aussi bien au niveau de l'agriculture de subsistance que de l'agriculture de rente, source d'importants revenus pour les ménages dans les zones les plus touchées par les impacts négatifs des changements climatiques. Ce sont les femmes qui jouent le rôle de chef de ménage en l'absence des maris partis en exode. De quel renforcement de capacité dispose-t-elle afin de mieux appréhender les effets du changement climatique?
Les femmes.
Oui.
Capacités
de renforcement qu'elles disposent.
Donc, on fait les renforcements de capacité, comme je vous l'ai dit. Premièrement, on fait la sensibilisation. On leur fait beaucoup de sensibilisation et beaucoup de formation pratique, chacune dans son domaine. On leur fait surtout beaucoup de formation pratique, comment améliorer et surtout, on leur donne aussi surtout l'idée d'entrepreneuriat. Parce que très souvent, les femmes, elles se limitent à un petit commerce ou bien à une petite production. Donc, nous, on les forme pour qu'elles dépassent ce stade-là. Maintenant, avec l'arrivée de la loi OADA, et chaque producteur, chaque productrice est un entrepreneur. Donc, il faut qu'elles sachent qu'elles investissent le petit argent qu'elles ont. Elles sont une entrepreneuse et il faut qu'elles arrivent à passer d'un point A pour arriver à un point B. Ça, c'est très important. Parce que très souvent, les femmes, elles ont toujours leur petit lopin de terre. Elles cultivent toujours un peu de sésame, le petit gombo. Maintenant, il faut dépasser. Si elle a un petit lopin, maintenant, il faut qu'elle arrive à avoir 1 hectare. Après l'hectare, il faut qu'elle arrive à avoir 2 hectares. Et il faut qu'elles arrivent à étendre son activité à une échelle plus large pour que son pouvoir d'achat aussi augmente. Donc ça, c'est ce qu'on leur donne comme information. Chaque femme doit être une entrepreneuse, une femme d'affaires, donc qui peut subvenir à ses propres moyens. Et il faut qu'elles accèdent aussi à des financements extérieurs. Il faut que, parce qu'on leur donne aussi cette éducation-là, il y a, par exemple, les projets maintenant qui émergent, qui peuvent aider les femmes et tout entrepreneur. Il y a le FISAN, il y a le PIMILAN, il y a les banques. Donc, il faut que la femme dépasse ce stade où elle investit 10 000, 20 000, 50 000 pour pouvoir investir des centaines de milliers dans son activité pour que son activité lui rapporte 2 fois, 3 fois plus que ce qu'elle a investi.
D'accord. Est-ce que vous leur offrez aussi le matériel comme renforcement de capacité?
Non.
Matériel pour la culture?
Non, on leur offre pas. Mais dans les formations, elles connaissent tous ces matériels-là, de la charrue jusqu'au tracteur.
D'accord.
Oui, donc elles connaissent et puis elles peuvent avoir des techniciens qui peuvent les aider à l'utilisation de cette nouvelle technologie-là.
Vous avez quelque chose à rajouter, monsieur Yacouba?
On peut continuer.
D'accord. D'ici 2050, la population subsaharienne est susceptible de passer de 850 millions à 1 milliard 700 millions d'habitants, ce qui entraînera une demande alimentaire croissante. Il s'agira d'un énorme défi, surtout avec le changement climatique. Comment le Niger s'engage alors, monsieur Yacouba, pour accélérer cette action climatique?
Donc, pour accélérer, c'est un défi. Un défi de nourrir une population, c'est-à-dire qu'il y a si ce n'est pas le plus fort taux de croissance au monde, c'est un défi énorme. Donc, l'État a développé plusieurs initiatives. La première, c'est la stratégie de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est à son troisième plan d'action. Les deux plans d'action ont fait l'objet d'une revue des 10 ans de mise en œuvre. Cette revue a donné des résultats concluants, des pratiques qui ont répondu à l'adaptation des populations rurales, des pratiques qui ont été capitalisées et reconduites dans le troisième plan d'action. Donc, dire que la stratégie de l'initiative 3N, donc, elle a fait en sorte que au Niger, que sécheresse ne rime plus avec famine. Je pense que ce défi a été relevé. désormais donc, on arrive donc à créer les conditions pour que, en cas de sécheresse, qu'il n'y ait plus famine. Donc, la stratégie de l'initiative 3N, elle est mise en œuvre donc à travers les ministères du secteur rural, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Hydraulique et le ministère du Commerce. Donc à cela s'ajoute le dispositif de gestion et de prévention et de gestion des crises et catastrophes. Elle est mise en œuvre par les ministères sectoriels comment ? À travers nos documents de planification. Nous avons donc, à partir de 2018, nous sommes passés du budget vers l'approche budget-programme qui institue les DPPD, ce que nous appelons les documents de programmation pluriannuelle de dépenses. Ces DPPD, ce sont des documents triennaux. Ces documents triennaux qui sont mis en œuvre à travers des documents annuels que nous appelons PAP, projet annuel de performance. Donc, dans ces projets annuels de performance, donc l'État, chaque ministère à travers ses différentes directions fait la planification des actions qui concourent à la mise en œuvre des programmes stratégiques de l'initiative 3N. La performance aussi de ce projet annuel de performance, elle est évaluée à travers les RAP, les projets annuels de performance. Donc, hormis ces documents de planification ou bien d'évaluation de l'initiative 3N, nous avons également le rapport CIO, le rapport du comité donc interministériel d'orientation qui est présidé par le premier ministre.
Une dernière interrogation pour vous deux. Comment pensez-vous comment garantir un environnement plus favorable aux femmes productrices dans le domaine de l'adaptation? Là, on arrive à l'adaptation aux effets du changement climatique. Comment est-ce que les femmes doivent s'y prendre, les femmes productrices doivent s'adapter, s'y prendre pour s'adapter au changement climatique?
Donc, comment elles vont s'adapter? Oui. C'est surtout, comme je vous l'ai dit, il faut qu'elles utilisent surtout les semences améliorées. Quand elles utilisent les semences améliorées, ça va avec la période pluviale. Donc, elles ne sont pas surprises. Donc, parce que très souvent, vous savez, les femmes agricultrices, elles sont des garantes des semences traditionnelles. Donc, maintenant, elles ont compris qu'il faut abandonner ces semences traditionnelles pour s'adapter aux semences améliorées. Donc, elles font, comme je vous l'ai dit, elles font la régénération des terres assistées, la régénération naturelle assistée des terres. Voilà, elles font aussi les cultures par alternance. Donc là aussi, elles s'adaptent aussi au changement climatique parce que quand elles alternent les cultures, ça permet par exemple donc au sol, je pense, de se régénérer aussi. Elles participent aussi à la préservation de l'environnement. Donc je vois que donc les femmes elles contribuent aussi, donc elles font la régénération naturelle des sols. Donc elles participent à planter des arbres pendant la saison des pluies. Donc elles font le rail, donc les cordons cailleux, tout ça là c'est leur contribution pour pouvoir améliorer l'environnement dans lequel elles vivent.
D'accord. Avez-vous un appel à lancer à l'égard des femmes productrices?
Le cri de cœur que j'ai à l'endroit des femmes productrices, c'est qu'il faut effectivement qu'elles s'investissent dans l'amélioration de l'environnement. Comme je vous l'ai dit, elles sont toutes dépendantes de l'environnement. Cet environnement, une fois qu'il est préservé, une fois que les conditions de l'environnement sont améliorées, leurs conditions de vie aussi sont améliorées. Donc, elles ont intérêt à ce que l'environnement soit viable. Donc, il faut qu'elles contribuent effectivement à faire viabiliser, à rendre viable cet environnement pour lequel elles deviennent complètement dépendantes.
D'accord. Monsieur Yacouba.
Voilà. Donc, je dirais, en matière de lutte contre les changements climatiques, il y a ce que nous appelons l'adaptation et l'atténuation. Donc, l'atténuation, ce sont les mesures qui concourent donc à la lutte contre les conséquences des changements climatique. Les conséquences des changements climatiques tels que les inondations, les sécheresses, les invasions acridiennes, les maladies climato-sensibles. Donc lorsqu'on lutte contre les conséquences, on fait de l'adaptation. Mais lorsqu'on lutte contre les causes des changements climatiques, les causes des changements climatiques, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc lorsqu'on cherche à diminuer ces gaz à effet de serre, on fait de l'atténuation. Une action qui concourt à l'atténuation, c'est de planter des arbres. Lorsque nous plantons des arbres, puisque les arbres concourent donc à l'absorption du CO2 à travers le processus de la photosynthèse. Donc, adaptation contre les conséquences, atténuation contre les causes. Bien que on peut faire de l'adaptation par ricochet, l'atténuation. De l'autre côté aussi, on peut faire de l'atténuation à co-bénéfice, adaptation. Maintenant, donc, pour revenir donc à la question, comment font les femmes agricultrices, c'est-à-dire comment et pour renforcer donc leur résilience, c'est de les, généralement, on le sait, c'est-à-dire au Niger, les femmes ne participent pas aux prises de décision. Donc, c'est de leur octroyer, donc de leur faciliter donc leur participation aux prises de décision. Donc, c'est de les instruire. Donc, une action, c'est-à-dire qui consiste donc et qui est à s'allier, c'est de le maintien de la jeune fille à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. Il faut généralement aussi développer des activités à haute intensité de main d'œuvre. C'est ce que nous appelons les activités IMO. Généralement, c'est des activités qui rentrent dans la récupération des terres, dégradées. Donc, les actions, donc, elles sont multiples. Donc, je vais me limiter donc à cela.
En conclusion, donc, au Niger, l'agriculture constitue un secteur clé pour le développement socio-économique. Néanmoins, ce secteur reste confronté aux aléas climatiques récurrents et demeure très vulnérable aux effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques. Pour les mesures d'adaptation en vue de limiter les conséquences sur l'agriculture des femmes et mieux produire, nos invités estiment que les contributions déterminées au niveau national qui reflètent les engagements des pays signataires à contribuer au changement climatique doivent être prises en compte. Les femmes doivent se relever, s'adapter pour faire face au changement climatique en utilisant des semences améliorées et favorisant les cultures par alternance. Elles doivent aussi contribuer à rendre viable l'environnement. Nous sommes au terme de ce forum. Nous étions en compagnie de M. Niendu Dabore Yakuba, chef de division de la Direction générale de l'environnement et du développement durable, et en compagnie de Mme Hima Fatimata, présidente du Collège des femmes plateforme paysanne. Je rappelle une fois de plus que le ministère de l'Agriculture a été convié, mais qu'ils n'ont pas pu envoyer de représentants. Je suis Rafika Taher à la présentation, Al-Mustapha Ayouba à la technique. Merci et au revoir.